Durant cette heure littéraire, mon premier invité, c'est Alain Bernard Marchand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous êtes poète. Première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi Rembrandt?
Ça remonte à très loin. Ça remonte à la fin des années 70. J'ai connu Rembrandt dans des circonstances assez particulières.
Dites-moi pas que vous êtes de ses connaissances intimes.
Non. Mais en fait, je suis devenu par la suite, par la force des choses. Mm-hmm. Mais je venais d'avoir 18 ans. C'était mon premier voyage sac à dos en Europe. Je débarquais à Amsterdam. Probablement parmi les 5 jours de pluie les plus diluviennes qu'Amsterdam a connu ces années-là. Et alors que c'était la sécheresse partout ailleurs en Europe. Mm-hmm. Alors, je m'étais réfugié au Rijksmuseum et j'étais tombé par hasard au fil de mes pérégrinations dans le musée, dans une grande salle où il y avait des cordons de sécurité un peu partout et une énorme toile qui faisait tout un pan de mur, qui était la Ronde de nuit, mm-hmm. qui venait d'être sérieusement abîmé par une espèce d'illuminé qui l'avait attaqué ni plus ni moins à coups de couteau à beurre.
Mmh, absolument. D'ailleurs, mesdames, messieurs, si vous voulez avoir une chanson sur justement cette toile-là, La Ronde de nuit, il y a un groupe français qui vient de sortir un nouvel album qui s'intitule Le Petit Musée. C'est le groupe Lénine Renault. Oh. Et justement, il parle de cette ronde de nuit et de cette toile-là en particulier. Ceci étant dit, cet aparté étant fait, je vous laisse continuer.
Je vais m'empresser d'aller l'écouter.
Oui, c'est ça, oui, absolument.
Alors, c'était mon premier contact avec une toile de Rembrandt. Et de là, j'ai connu, dans ce musée-là, d'autres autoportraits. Alors, mm-hmm. j'ai trouvé ça curieux qu'il y avait beaucoup d'autoportraits de ce peintre-là que je ne connaissais pas à l'époque vraiment, sinon de nom, mais je n'étais jamais attardé à Rembrandt. Et je me suis dit, il y a un nombre quand même incroyable d'autoportraits. Et je me suis rendu compte que c'est un des premiers peintres qui avait fait de son propre visage mm-hmm. un objet d'étude, probablement
Absolument.
Par souci d'économie, parce que ça lui coûtait moins cher que d'avoir recours à des modèles à l'époque.
Tout à fait.
Il était très jeune. Et au fil du temps, on dirait que Rembrandt me rattrapait à chaque étape de ma vie. Ça va, vous m'entendez?
Oui.
Alors, à un moment donné, au cours de mes études en littérature, l'auteur auquel j'avais consacré plusieurs années de mes études avait écrit quelques très, très beaux textes sur Rembrandt. Alors, j'ai continué à m'interroger sur Rembrandt. Alors, chaque fois que j'avais l'occasion, soit dans des livres d'art ou dans les musées, j'aime beaucoup les musées, mm-hmm. d'ailleurs, un de mes endroits de prédilection, mm-hmm. C'est le Musée des Beaux-Arts ici à Ottawa. Il y a deux belles toiles de Rembrandt, d'ailleurs.
Tout à fait. Mm-hmm.
Alors, j'y vais assez souvent, je vais dans les musées, et à chaque fois que j'ai l'occasion de voir un autoportrait de Rembrandt, je vais voir un peu comment le peintre se représente lui-même, et c'est toujours un peu étonnant. Parce que,
il existe plusieurs portraits de lui-même?
Ah oui, il y en a plus d'une centaine. Mm-hmm. Moi, j'en ai fait, je pense que j'en ai couvert 40. Mm-hmm. J'ai choisi 40 parmi tous les autoportraits qui m'ont frappé, mais j'aurais pu en avoir plus. Mais 40, ça me semblait suffisant pour l'instant.
Qu'est-ce qui ressort particulièrement de votre observation des autoportraits de Rembrandt, puisque c'est un peu ça l'objet du bouquin aussi? Bien sûr, vous avez traduit ça, si je peux dire, c'est un mauvais terme, mais enfin, traduit ça en poésie et en texte en lien avec ça, bien sûr. Qu'est-ce qui ressort de Rembrandt? Moi, quand je vois un Rembrandt, la première chose qui me frappe, c'est la lumière, la position de la lumière. Vous allez me dire, en peinture, j'apprends rien de neuf, là, c'est un peu normal, mais c'est remarquable chez lui. Est-ce que c'est la même chose pour vous et est-ce que vous avez aussi réussi à traduire ça?
Oui, parce que dans la plupart, influencé par le Caravage, mm-hmm. Rembrandt, la plupart de ses portraits surgissent d'un fond de ténèbres et d'obscurité totale. Mm-hmm. Alors, mais ce qui m'intéressait aussi à travers tous les portraits, c'est de non seulement de raconter ma petite histoire, c'est-à-dire l'histoire entre regardant et ce qui est regardé, les toiles de Rembrandt et comment Rembrandt se perçoit au fil du temps, parce qu'on a la chance d'avoir des portraits de lui depuis qu'il est tout jeune, il n'a même pas 20 ans, jusqu'à la veille, presque la veille de sa mort. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. Donc, on a tout un échantillonnage de visages qu'il nous a laissé de lui-même. Mais je voulais faire passer aussi toute une époque matérielle qui est assez particulière, parce que la flotte hollandaise, à l'époque, au 17e siècle, était la plus puissante de l'Europe. Hein, et ramenait de partout d'ailleurs, de la Russie, les zibelines, les soies d'Orient, les épices, d'un peu partout dans le monde de l'Afrique. Et tout ça par la force du vent, finissait par atterrir, par échouer au port d'Amsterdam. Et Rembrandt, lui, était très curieux, donc il a presque transformé à cette époque-là son atelier en cabinet de curiosité. On trouvait de tout, des zibelines, des plumes d'autruche, des fraises à confusion que portaient les habitants. Donc je voulais aussi faire passer toute la frénésie d'une époque qui n'est pas tellement dissemblable de la nôtre. En fait, la nôtre serait peut-être l'aboutissement de cette première tentative de mondialisation.
avec la commercialisation.
Voilà.
Tout à fait.
Et puis aussi, rendre compte de toutes les innovations matérielles qu'évoque Rembrandt par sa pratique, c'est-à-dire les pigments qu'il utilise. C'est un graveur aussi, hein, un graveur très important. Plusieurs de ses autoportraits sont des gravures, d'ailleurs. Ses eaux fortes, ses sanguines. Donc, je voulais m'attarder non seulement au peintre, mais à l'époque qu'il me permettait de traverser, et de tous les enjeux matériels auxquels est confronté un artiste
tout à fait.
De sa trempe au fil du temps.
Tout à fait. Je vais vous demander de ne pas trop vous éloigner du micro, si c'est possible.
C'est des J'ai micros. Tendance à être
c'est des,
un peu
c'est
errant,
des micros
de la voix
unidirectionnels. Oui, c'est ça, exactement. Le poète errant. Exactement. Parlant justement de poète, est-ce que ça a été difficile, justement, de traduire en mots à la fois l'époque, le bonhomme, le peintre, le personnage, bien sûr. Est-ce que... Je ne devrais peut-être pas vous poser la question, parce que vous avez quand même beaucoup de d'années d'expérience en écriture, bien sûr, mais je vous pose quand même la question, parce que ce n'est pas nécessairement évident pour un néophyte de traduire tout ça en termes poétiques.
C'est vrai, et c'était le grand enjeu de ce recueil-là. D'ailleurs, j'ai mis plusieurs années à l'écrire. C'est un recueil qui a connu plusieurs formes avant d'aboutir à la forme que vous avez lue. Et je pense que le déclic s'est fait lorsque j'ai décidé de dédoubler la voix, c'est-à-dire d'avoir d'un côté mon regard, mon appréciation de chacun des autoportraits en faisant passer l'époque et les matières qui s'y trouvent découvertes, mais aussi avec un espèce de petit commentaire qui l'insère dans la grande histoire générale de l'histoire de la peinture et l'histoire de la culture. Il ne faut pas oublier que Rembrandt peignait à l'époque où, un petit peu plus à l'ouest, Shakespeare faisait parler des fantômes, Molière amusait la cour du roi, et Cervantes lançait son chevalier à l'assaut des moulins à vent. Hein. C'est une époque assez frénétique, le 17e siècle, une époque très féconde en toutes sortes d'innovations qui s'ouvrent sur le monde pour la première fois. D'ailleurs, la Nouvelle-France, on est un peu issu de cette époque-là aussi, hein, plus tard après. Et donc, c'est toute la frénésie d'une époque et d'un jeune artiste qui se voit confronté à cette époque-là. Rembrandt aussi, contrairement à son grand rival Rubens et à plusieurs des autres peintres de cette époque-là, n'a pas fait le tour d'Italie. La plupart des peintres à l'époque, au XVIIe siècle, hein, allaient faire ce qu'on appelait le tour d'Italie. Allaient se faire la main à Rome ou à Florence ou à Venise. Mais Rembrandt, lui, n'est jamais aller plus loin qu'Amsterdam. Il est toujours resté dans les Pays-Bas. À un moment où c'est une période où il y a des guerres de religion, les Pays-Bas sont déchirés entre les catholiques, les protestants, les luthériens. Bref, il y a toutes sortes de choses qui divisent la société. Donc, c'est très riche comme époque.
Absolument. Mais à son avantage, c'est qu'il a un très, très grand sens, jusqu'à c'est ma perception que moi j'ai, un très, très grand sens de l'observation et le fait que le commerce se rejoignent et se soient établis, ou lui passent par devant les yeux ou dans les mains à Amsterdam, non, au port, j'ai l'impression que ça lui permet de voyager un peu. C'est un peu comme Jacques Brel aussi. Jacques Brel aussi...
Les gens du Nord.
les gens du Nord, oui, absolument, tout à fait. Il y a beaucoup d'observations là-dedans, beaucoup d'observations, et ça vous rejoint aussi, puisque vous m'avez dit au point de départ que vous avez beaucoup observé Rembrandt et les autoportraits et les images qui en existent. Vous rejoignez là-dessus.
Oui, tout à fait. Ben, le sens de l'observation est aussi l'exploration du lien qui se noue entre celui qui regarde et ce qui est regardé. Hein. C'est toujours un peu ça l'enjeu, seulement des arts picturaux, mais de la poésie aussi.
La double voix.
Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. Vous dites que ça a pris pas mal de temps à écrire ça. Pourquoi?
Parce que, premièrement, j'avais un souci d'économie de moyens. Je voulais de trouver qu'il n'y ait pas un mot de trop et que chaque mot était choisi à dessein pour évoquer.
Souci de la langue.
Souci de la langue et souci de ne pas trop en dire pour laisser le lecteur, plutôt que le regardant cette fois-ci, pouvoir ajouter sa propre expérience d'étoiles de Rembrandt ou d'étoiles en général, ou de ce qu'il regarde en particulier, que ce soit un paysage ou un portrait. Donc, souci de résumer ça, ça c'est l'influence de la littérature orientale que j'ai beaucoup en amateur pratiqué pendant des années. J'aime beaucoup les auteurs qui arrivent à résumer une pensée complexe en très, très peu de mots. Donc, il y avait un souci d'économie qui me permettait de rejoindre aussi le souci d'économie de moyens qu'utilisait Rembrandt.
C'est drôle. Au point de départ, en regardant un tant soit peu les notes biographiques qui vous concernent, il y a eu Tintin. Bon, je vous disais hors micro que moi aussi, Tintin, ça a été un déclencheur pour la lecture. Bon, c'est pour moi que ça importe. Mais pour vous, ça a été vraiment, semble-t-il, un élément déclencheur beaucoup plus important, non seulement à la lecture, mais aussi pour l'écriture. Parce que justement, Hergé, dans ses bulles, il écrivait d'une certaine façon pour compléter le texte et les images. Bon, je ne veux pas rentrer dans une analyse très poussée de tout ça, ça a déjà été fait, mais je me demandais si effectivement ce choix que vous aviez de la lecture de Tintin vous a influencé maintenant dans vos écrits.
Oui, tout à fait, et même avec le Rembrandt. Parce que ce qu'il y a de merveilleux avec l'univers d'Hergé, c'est qu'on apprend à le lire deux fois. La première fois qu'on lit, moi je ne savais pas lire les mots, donc je lisais les images, et à cause de la ligne claire, on arrive à suivre l'intrigue, l'histoire très facilement. Peut-être pas dans toutes ses complexités, mais on arrive à suivre une histoire, une succession d'actions. Et par la suite, très peu de temps après, lorsqu'on apprend à lire, on apprend à le lire une deuxième fois avec les mots cette fois-là. Alors, revenir à Rembrandt, j'ai fait le trajet inverse avec Rembrandt, c'est-à-dire je suis revenu à l'image pour apprendre ou essayer de faire dire avec des mots ce que les images suscitaient en moi. Donc, oui, il y a un trajet là, qui va de Hergé jusqu'à... Remarquez qu'Hergé aussi rêvait d'être un grand peintre.
Oui.
Il s'est même essayé à faire des abstractions. Heureusement, un critique lui a dit un jour, « T'es mieux de continuer à faire de la bande dessinée, ce sera mieux pour nous, en tout cas.
» Absolument.
Mais c'était un grand deuil pour lui, un grand deuil de sa vie, de ne pas pouvoir devenir un grand peintre d'art moderne. Il adorait Paul Klee. C'était un grand collectionneur d'art contemporain. Il collectionnait des œuvres de fantasy. Donc des goûts très pointus dans le domaine de l'art contemporain. Donc oui, je m'intéresse aux peintres et j'aime beaucoup parler des peintres. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que peut-être que contrairement aux écrivains, les peintres, eux, ils ont les deux mains dans la matière. C'est-à-dire, pour faire une sculpture ou faire une œuvre picturale, c'est avec les... Ça passe... Disons, au-delà du réflexif, du cérébral, c'est quelque chose de plus instinctif, plus animal.
Mais écrire aussi, c'est un geste physique.
C'est un geste physique, mais qui passe par le cerveau, ça va de la tête à la main.
Un peu moins avec les ordi maintenant, mais avec la plume, etc., et à l'époque surtout, sans aucun doute. Vous êtes originaire de Shawinigan.
Oui.
Et vous êtes déménagé probablement à cause de vos parents, dans les alentours du lac Huron, bien sûr, et vous avez abouti à Ottawa. Bon, ça c'est un parcours rapido. Est-ce que vos parents étaient déjà plongés dans le monde littéraire?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y avait pas de livres chez moi. Alors, j'ai grandi dans un milieu où il y avait très, très peu de livres. Mais la famille de ma mère, surtout, ma grand-mère paternelle, elle était une lectrice. Alors, par elle, le goût des livres m'est venu certainement. Et du côté de ma mère, c'était... Bon, ma mère avait plusieurs sœurs, c'est une famille très nombreuse. C'était une famille de femmes. Premièrement, c'était toutes des femmes ou à peu près, et toutes des conteuses. Donc, le goût de conter des histoires m'est venu beaucoup de ma famille, de la famille et de ma... Le côté plus cérébral du côté de ma grand-mère paternelle, et puis le côté plus instinctif, le goût des histoires, d'en entendre et d'en raconter, tout en entendre quand j'étais jeune. Parce que mes tantes donnaient rarement leur place lorsqu'il s'agissait de conter des histoires.
Êtes-vous bon conteur, vous aussi?
Non.
Du tout?
Non, pas vraiment. Je suis meilleur écrivain que conteur.
Pourtant, vous avez la parole facile.
Oui. J'en perds. Vous voyez, j'en perds mon
illusion. Oui, j'ai vu ça. Je vous ai fait perdre tous vos moyens.
Je vous remercie du compliment.
Absolument. Tout à fait. Je vais vous faire entendre quelque chose parce que vous avez été reconnu. Je l'ai écouté juste pour le plaisir d'écouter ça. C'est rare qu'un auteur, quand il reçoit un prix, le prix Trillium, vous vous en doutez un tout petit peu, de la ville d'Ottawa, c'est rare qu'un auteur lise. Habituellement, il y a les remerciements d'usage, etc. Mais là, j'ai réussi à trouver, sur votre site d'ailleurs, ce que vous allez entendre. Écoutez bien, mesdames et messieurs.
Je suis descendu vers Athènes comme un verre d'ouzo dans la gorge. C'était mon 40e anniversaire, la fameuse quarantaine dont on dit dans les revues de psychologie qui traînent dans les salles d'attente qu'elle est la charnière entre la jeunesse et la vieillesse, l'une finissante et l'autre commençante. Je passais à la deuxième moitié de ma vie, me répétaient mes amis, qui me suggéraient sur le même air de partir avec eux en voyage pour marquer le coup. En Grèce, par exemple, ai-je formulé, comme si c'était un vœu, même si j'étais le seul à mesurer la portée de cette destination. Ils ont trouvé l'idée géniale, comme des ados sur le point de fuguer, et en blaguant que ça me rajeunirait sûrement de festoyer au milieu des ruines. Puis je me suis arrangé pour arriver avant eux par un autre vol.
Comment vous êtes senti à recevoir ce prix-là?
Ben, j'étais très content de recevoir ce prix-là parce que c'est toujours...
C'est en 2018, d'ailleurs.
Oui, c'est en 2018. C'était pour un recueil de nouvelles, La Grèce, d'ailleurs, qui traverse toute mon œuvre. Je pense que je parle de La Grèce. Je me demande si j'ai peut-être...
Oui, je me demandais si vous n'aviez pas de l'Andromaque chez vous, quelque chose du genre.
C'était mon premier voyage. Quand j'avais 15 ans, j'ai participé à un échange scolaire avec une école en Grèce. À l'époque, c'était un high school parce que je venais de déménager en Ontario sur les rives de la Curonne. Donc, j'ai fait mes études secondaires en anglais. Et donc, j'ai passé mon premier voyage en Europe et premier voyage solo, c'était en Grèce.
En Grèce.
Donc, c'est toujours le plus beau voyage,
absolument,
le premier.
Absolument, tout à fait. Alors, vous êtes allé à Athènes, je suppose.
Je suis allé à Athènes.
Au Parthénon, évidemment.
Oui, 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 tout à fait. À l'époque, d'ailleurs, c'était en 73, alors ça vous donne une idée. À l'époque, au Parthénon, sur les flancs du Parthénon, de l'Acropole, il y avait encore des moutons qui paissaient librement. C'est-à-dire, on montait, les gens ramassaient des morceaux de pierre, des colonnes effritées et repartaient avec les morceaux.
Touchez pas à ça, voyons. Non, c'est les muséologues et les archéologues avec quoi rougir.
Oui.
Maintenant, il ne faut plus s'essayer.
Oui, autre temps, autre mars.
Autre temps, autre mars, effectivement. Ça fait. Par ailleurs, évidemment, je vous avoue bien franchement, Alain Bernard, que je n'ai pas lu toute votre œuvre, mais vous dites que ça a traversé complètement votre œuvre. Donc, par conséquent, il y a des effluves de l'art grec, il y a des effluves des auteurs grecs qu'on retrouve.
Oui. Un de mes livres de prédilection, par exemple, c'est L'été grec de Jacques Lacarrière, qui, lui, après la Deuxième Guerre mondiale, est allé à pied de la France jusqu'en Grèce. C'était un des premiers qui a pu habiter au Mont Athos avec les moines et qui en a tiré un livre magnifique qui s'appelle L'été grec, que j'ai lu plusieurs fois. Et j'aimais beaucoup la musique de Théodorakis. C'était une période...
Ah, ben là, vous me rejoignez. Vous me rejoignez. Mais il y a Mercouri aussi, par exemple?
Oui, c'est ça. Hein? Beaucoup. Okay. J'ai écrit d'ailleurs un recueil de poèmes qui s'appelle Le chant d'un autre siècle, qui s'inspire de tous les morceaux de musique qui m'ont accompagné. J'écris tous les jours le long de la rivière Rideau, ici à Ottawa, en marchant, en écoutant de la musique. Donc, presque tous mes livres sont accompagnés de musique.
Alors, vous me voyez venir. Votre musique, pas préférée, c'est une mauvaise question. Votre musique la plus inspirante pour la ville d'Ottawa, laquelle est-ce?
Pour la ville d'Ottawa?
Ou je vais être très spécifique pour le canal de Rideau, si vous voulez. Là, mais
allons-y pour Ottawa. Il y en a plusieurs. Je suis très éclectique. Je suis très, très éclectique. Ces derniers temps, disons, il y a 2 ans, j'ai décidé d'entreprendre des études de piano. Alors, comme je suis absolument pas très doué, je me suis mis au piano et je travaille beaucoup les préludes de Bach présentement. Alors, Bach m'occupe beaucoup.
Qu'est-ce que Bach a à voir avec Ottawa?
Quoique,
c'est vrai, il y a
Chamberfest.
Il y a Chamberfest, c'est vrai.
Oui,
et à la base de Chamberfest, c'est
Bach. Mais il y a aussi la chanson de Cano, La nuit sur les temps, aussi, que j'ai fait beaucoup dans la ville, qui fait partie aussi de mon playlist, que j'écoute beaucoup. J'aime beaucoup les chansonniers, aussi les vieux chansonniers, en fait, c'est ce que mon neveu et ma nièce diraient.
Ceux qu'en principe, on n'écoute plus à la radio, mais qu'on écoute encore.
Voilà.
C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Ben écoutez, c'est un pur bonheur de vous avoir à Culture Géniale, Alain Bernard. C'est beaucoup trop court, je vous le disais, mais déjà, voyez-vous, je vous disais 20 minutes. Hein? Ça va très, 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 très vite. J'ai envie de vous demander, en terminant, vous travaillez sur quoi maintenant?
Je travaille sur un autre peintre. présentement, mais c'est un roman cette fois-ci. Non, non,
Manet.
Non, un peintre pourtant qui est associé à une des premières œuvres a acquise le musée du Louvre.
Grikoff. Non, c'est pas ça.
Chardin.
Chardin.
Jean-Simon Chardin. Deux magnifiques toiles au musée des Beaux-Arts de Chardin, d'ailleurs, que je vous invite à aller voir si vous ne les connaissez pas. Mm-hmm. Chardin, qui est un peintre de nature morte, mais qui était un peintre qui passait énormément de temps à faire une seule toile.
Du 17e aussi?
18e.
18e?
Oui.
Ah, ben là, je vous avoue ma
méconnaissance. Je saute un siècle.
Oui, c'est ça. Exactement. Je vous avoue ma méconnaissance, mais croyez-moi, je vais combler ma curiosité. Sans aucun doute. Grand merci.
Merci de votre invitation.
Alain Bernard, ça a été vraiment sympa. Je réitère pour ceux et celles qui seraient intéressés par l'ouvrage, bien entendu, Les visages de Rembrandt, bien entendu. C'est de poésie. Et c'est... je vais vous donner le nom de l'édition.
Aux éditions du Passage.
Du Passage, effectivement. Oui. Pas facile à trouver, je vous avoue bien, franchement, pas facile à trouver, mais une petite maison d'édition qui commence à faire son œuvre, alors tant mieux, ça nous permet d'encourager.
Oui, je l'ai choisi parce qu'il s'intéresse beaucoup aux arts visuels, justement,
c'est
la peinture.
C'est pour ça. Hein? Ouais. Ben, au plaisir de se reparler pour le
merci,
prochain ouvrage.
Merci,
parfait, merci beaucoup.